Parlo cane.
Le problème qu'il y a, c'est que l'interdiction nous empêche d'aller faire de la prévention. L'interdiction qui fait la promotion. C'est le gros problème qu'on a en France avec le cannabis et le chanvre. C'est que tout le monde est en train de se tirer dans les pattes, comme si on était des concurrents. Je suis désolé. Moi, Pierre, Paul, Jacques, vous êtes mes confrères.
C'est
vous
n'êtes
pas des concurrents. Si vous reniez le producteur, il n'y a rien à vendre. Il n'y a pas
raison.
De produit. Donc respectez-le, le producteur. Il veut se prétendre être bobo et puis acheter quelque chose qui est joli. Ben, va t'acheter une Ferrari, mais n'oublie pas que t'as un moteur de chevaux dedans.
Parlons canin.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournable sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité, sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info.
Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Ce que vous allez apprendre sur le cannabis légal va vous étonner. Que vous soyez curieux, utilisateur ou professionnel, nous allons démystifier une plante millénaire aux mille facettes. Ici, on parle de CBD, mais aussi THC, loi, production, laboratoire, produits, variétés et bien plus encore. Je m'appelle Mathias, je suis entrepreneur multirécidiviste dans le milieu du CBD et je vais à la rencontre des acteurs engagés qui feront le marché de demain. Je les interview sans filtre pour comprendre leurs techniques pour innover dans ce marché particulièrement contrôlé et restrictif. Alors, nourrissons-nous de l'énergie extraordinaire des intervenants. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana. Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Aujourd'hui, je vais parler avec Gérald Mexmin. Alors Gérald, tu es producteur de chanvre, dans la Somme depuis 2016. Alors il y a un petit peu de bruit parce qu'on est au salon du CBD. Il y a un petit peu de bruit en fond, mais j'ai fait exprès pour qu'on nous entende bien. Tu es actif et militant depuis 36 ans pour la légalisation du cannabis. Tu as fait des manifestations dans toute la France. Alors, tu as une chose particulière qui est une algie vasculaire de la face, que l'on appelle aussi le céphalée du suicidé, que tu contrôles grâce aux cannabinoïdes. Et tu vas nous en parler ça, puisque c'est une partie importante, je pense, de ta personnalité. Et tu as aussi inventé une machine pour l'extraction des trichomes. Donc, c'est les petites boules qui sont sur les fleurs, sur lesquelles tu vas nous parler aussi. En fait, il y a plein de choses à parler avec toi. On va se régaler, on va passer un super moment. Mais la première question que j'ai à te poser, présente-toi. Alors, qui tu es ?
Ben, salut, donc Gérald Mexmin. Donc salut à tous. Je fais donc du cannabis maintenant depuis 2016 parce que j'avais un métier qui avant me permettait de m'acheter mon cannabis pour contrôler mon algie vasculaire de la face, qui est donc une pathologie qu'on appelait avant la céphalie suicidée parce qu'il n'y a aucun remède. Donc c'est comme, je vais vous la faire simple, c'est une batte de baseball qui vous arrive ou dans le visage ou une bombe qui vous explose la moitié du visage. C'est insupportable, on vous arrache l'œil, les dents, la langue, les cheveux, on vous scalpe avec des décharges électriques. Enfin bon, je vais pas vous faire pleurer parce que j'en ai pleuré assez pendant des années et j'ai eu même une cicatrice au visage pendant à peu près une quinzaine d'années sur le front qui maintenant je n'ai plus.
D'accord.
Parce que je contrôle donc ça avec le cannabis.
Alors, t'attaques vraiment fort direct là. On va essayer de revenir d'abord sur la partie production. Donc, tu as combien d'hectares? Tu produis comment? Parle-nous un petit peu de cette partie-là. Comment t'es devenu agriculteur? Voilà, surtout parle-nous un petit peu de toi.
Alors, je suis devenu agriculteur parce que suite à un accident de travail, j'ai perdu mon emploi de chef de chantier où je gagnais très bien ma vie. Je consommais la valeur de 500 à 1500 euros par mois de cannabis pour contenir mon céphalée. Je fumais en gros 5, 10, 15 pétards par jour.
Ah ouais, violent.
Le cerveau s'y habitue en fait et je vais dire que le côté défonce. Le cerveau il s'y habitue. C'est comme si vous prenez le premier pétard du matin et le pétard du soir. Bah, le pétard du matin, on va en mettre qu'un tout petit peu, et puis le pétard du soir, on va un petit peu le charger parce qu'on a un accoutumance du cerveau qui fait qu'il y a zéro. Enfin, l'effet est diminué, il est atténué.
Donc là, tu l'utilisais d'une façon médicinale, médicale plutôt, pour combattre ta douleur.
En journée, oui, certes.
Ouais.
C'était médical.
Et donc aujourd'hui,
le soir, honnêtement, c'était récréatif.
C'était détente. Ok, mais aujourd'hui, c'est pas légal même la partie médicale en France. Donc, tu étais conscient que tu étais dans du côté illégal, mais...
Disons qu'il y a un moment de temps, lorsqu'on a une algie vasculaire de la face, il n'y a pas 36 choix. C'est ou on prend le chanvre pour se fabriquer une corde et se pendre,
ouais.
Ou on prend du chanvre et on consomme les trichomes, qui sont les principes actifs de chanvre, de façon à pouvoir faire un choix entre la vie ou la mort.
Ouais. Ouais,
donc...
Ouais, donc après le côté légal.
Il y a un moment, le côté légal, excusez-moi, mais il m'est passé de l'argent.
Ouais, bien sûr.
C'est sûr. Plutôt que de me la couper.
Ouais, je comprends. Je comprends totalement. Et est-ce que tu as essayé, donc là, tu voulais, c'est un produit naturel. Je suppose que tu t'es tourné vers ça par rapport au fait que c'est un produit naturel. Mais est-ce que tu as essayé des médicaments, d'autres choses qui pourraient te soigner, qui pourraient t'aider? C'est quoi? C'est pas soignable?
Alors, disons que le problème que vous allez rencontrer avec l'algie vasculaire de la face, c'est qu'en général, les médicaments qui existent aujourd'hui, qui sont disponibles, vous rendent addict. C'est-à-dire que au bout d'un moment, vous tombez en manque du produit qu'on vous a donné pour calmer votre algie vasculaire de la face. Mais au bout de 3, 6 mois, le produit n'est plus efficace et vous en êtes complètement addict.
D'accord. Donc en fait, plus tu l'utilises et moins il y a d'effet, c'est ça?
Oui, c'est qu'un seul coup, ça ne fonctionne plus.
D'accord.
C'est donc... zéro, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, vous avez des personnes qui sont passées par des tas de médications qui finissent par avoir des broches, qui sont branchées au cerveau.
D'accord.
C'est une opération chirurgicale. En général, quand vous arrivez à ce stade-là, c'est que vous êtes avec des algies qui vous durent 24 heures sur 24. Et là, ben, on commence à se demander si on n'achète pas une arme.
Waouh. Ah ouais, c'est violent.
Oui, c'est se flinguer, quoi.
Hein. Mais ça, tu l'as eu d'un coup, de naissance ou comment?
À 14 ans.
À 14 ans.
À 14 ans.
D'accord. Et donc, ça s'attrape comment? C'est parce que cette maladie.
Alors, il y a plusieurs façons. Il y a le traumatisme, suite à un accident. Je n'ai pas eu de trauma. Bon, j'en ai eu un à 16 ans, à 12 ans, mais je ne pense pas que ce soit ça, bien que ce soit possible. Derrière le crâne, un choc assez violent. Donc vous avez donc ce côté accident, le trauma. Vous avez le facteur génétique, donc héréditaire. Et vous avez le fait de la surconsommation de stupéfiants, mais à haute dose, qui risque de déclencher par la suite les algies vasculaires de la face. À 14 ans, c'est pas la consommation de stup, parce que j'adore le lait. À 14 ans, je buvais beaucoup de lait. J'ai commencé l'alcool à 27 ans. Donc, ce n'est pas l'alcool qui m'a fait ça. J'ai consommé du stup à cause de mon algie, parce qu'il y a un moment où vous réfléchissez à savoir si on reste en vie.
Ouais.
Parce que c'est très violent, surtout quand ça vous touche H24. C'est très, très compliqué d'avoir quelqu'un qui essaie de vous extirper le cerveau.
Ah, je pense que j'allais dire, j'imagine, mais ce n'est pas possible d'imaginer. Je pense que c'est,
non, il n'y a rien. Arrachez-moi les testicules, j'aurai moins mal.
Ah ouais, non, c'est complètement dingue. Et donc là, donc, tu t'es tourné, donc tu avais une très grosse consommation de cannabis.
De cannabis pour contrecarrer ces douleurs.
Et tu t'es dit, je vais commencer à le produire, c'est ça?
Bah, disons qu'à la suite d'avoir perdu un emploi pour inaptitude à cause d'un accident que j'ai eu sur des ligaments, je ne pouvais plus exercer mon job de chef de chantier. Hein, j'étais responsable de chantier dans l'événementiel, je montais des chapiteaux, des tribunes, je faisais 400 heures de boulot par mois. Donc je gagnais très bien ma vie, donc c'est pour ça que ça me permettait d'acheter mon cannabis qui revient relativement à cher. Donc il a fallu que je trouve une solution pour pouvoir consommer du cannabis, soigner ma pathologie, enfin soulager de ma pathologie. Mais quand on n'a plus d'argent, ça devient compliqué. Et puis là, d'un seul coup, il y a ce fameux CBD qui arrive. Je dis, ok, c'est intéressant, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé, j'ai fait des tests, j'ai fini par me procurer du CBD et sans la défense, j'arrivais à être soulagé. Le THC me procure à plus, mais le CBD permet de contenir quand même. C'est-à-dire que sur un seuil le CBD me permet de chuter à peu près de un tiers la douleur.
Ben, c'est
si
énorme.
J'ai du THC, si c'est dans les 5 minutes de début de crise, si j'ai du THC et du CBD, je peux en enlever 70%. Mais au-delà de un quart d'heure de réactivité à fumer ce qu'on appelle du stup, si je dépasse le quart d'heure, je vais avoir que un tiers de bénéfice, même pas. C'est comme si je fumais pas. Donc il faut que je sois très réactif. Donc du cannabis, j'en ai en permanence avec moi. Les cannabis, quand je dis cannabis, chanvre. Chanvre, c'est du cannabis. C'est la même plante. C'est juste une question de ratio, de pourcentage de cannabinoïdes de fameux poil sécréteur glanduleux que tout le monde appelle le trichome. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous faire une petite anecdote. C'est que ce qu'on appelle un trichome, c'est le nom anglais, pharmaceutique, mais en France, on appelle ça un poil sécréteur glanduleux. Le problème, c'est qu'ici, on est à Marseille.
Il ne faut pas le dire.
Donc, si je vais dans certains quartiers que je ne nommerai pas, salut les amis, où je dirais, excuse-moi, tu aurais un petit peu de poil sécréteur glanduleux à me donner ? Le mec, il va me rigoler au nez. Je vais dire, du PSG. T'as moyen ? Il me dit, là, j'apprends à courir. Donc, non, je fais comme tout le monde, j'appelle ça du hashish. Parce que j'ai pas envie qu'on me court après.
Mais t'as raison, bien joué. Mais t'es la preuve vivante aujourd'hui que le cannabis fonctionne d'un point de vue pharma pour enlever tes douleurs, pour un bien-être. Et ça, c'est pas trichable. Parce que beaucoup de personnes disent, voilà, il y a des tests un peu à droite, à gauche, on sait pas, ça marche, ça marche pas. Mais toi, tu es la preuve vivante aujourd'hui.
Ah, moi, je suis la preuve vivante.
Que ça soit CBD, que ça soit aussi THC, tu es la preuve vivante aujourd'hui que ça t'aide dans ta maladie qui est horrible.
Ah, mais si ça ne faisait aider que moi, si je puis me permettre, j'ai rencontré des personnes qui, à l'étranger, hein, pas en France, mais j'ai rencontré des personnes qui font des extraits pour des malades. Hein. Alors, il y a un journaliste qui a fait, c'est en Libye ou en Syrie, je crois que c'était en Syrie, où en fait, les trafiquants de stup arrêtent le stup parce qu'ils veulent aider les gens, ils ont suffisamment d'argent pour vivre. Donc les gars, ils arrêtent de faire du stup, ils finissent par faire des extraits illégalement. Ils font des compositions avec de l'huile et des cannabinoïdes qu'ils procurent. Alors, je suppose qu'ils le vendent. Hein. Ça reste quand même à la base les vendeurs, dealers, vendeurs. Hein. Il me semble que c'est pareil. Ces gens-là proposent ces produits à des gens qui ont des algies comme moi ou qui ont Alzheimer, Parkinson, des cancers, des sciatiques. Moi personnellement, j'ai rencontré une personne qui avait eu un produit de Suisse qui m'a dit moi j'avais une double hernie discale. Après une semaine de consommation, je devais me faire opérer 3 semaines après. Au bout d'une semaine de consommation, mon hernie discale a disparu, qui m'a dit. C'est génial. Et puis là, le gars il me raconte ça, et juste il y avait une personne qui était sur le stand, et cette femme elle arrive, et puis elle dit moi c'était au cervical, mon hernie discale. Et elle a disparu aussi. Alors, est-ce que le cannabis, en fin de compte, on n'essaye pas de le laisser de côté parce que depuis qu'on nous l'a interdit, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de pathologies qui arrivent, qui sont présentes et qui n'étaient pas présentes. Comme par exemple, schizophrène. Tout le monde dit que le cannabis rend schizophrène. Ben, je suis désolé, hein, mais moi si je regarde les chiffres de ce qu'il y avait il y a 20 ans, pourcentage de schizophrène, et ce qu'il y a en schizophrène aujourd'hui, 20 ans plus tard, on est sur le même ratio. Pourtant, le nombre de consommateurs de cannabis a été multiplié par combien ? Je rencontre aussi des personnes qui me disent ah ben, moi aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai ma boîte, j'ai arrêté le cannabis. Ben, je suis suivi par un psy, je suis schizophrène. Il m'explique son périple. Et puis, en fin de compte, on est venu à une déduction que le gars, il a toujours été schizophrène. Mais il ne le savait pas. Comme il consommait tout le temps du cannabis, il n'avait pas de crise. Le jour qu'il a arrêté parce qu'il a eu des enfants, il s'est marié. Le cannabis dans une vie, c'est du passade. C'est une passade d'adolescent. Quand on arrive à avoir des responsabilités ou que la vie évolue, pof, le cannabis, il disparaît de votre vie. C'est comme lorsque vous prenez une cuite, vous prenez votre cuite le week-end quand vous allez faire la fête. Bon, ben, lundi, vous ne recommencez pas avec une bouteille de Pinard ou une bouteille de Ricard. Ah non, vous en restez là. Mmh. Et on en reprendra le week-end prochain si j'ai envie de faire la bringue. Vous n'êtes pas un alcoolique. Vous êtes un récréatif de l'alcool. Parce que mot récréatif, je suis désolé. C'est une insulte. Moi, quand je consomme un pétard, je me récréatif pas la gueule. Je me soigne.
Ouais, c'est ce qui fait aussi la différence.
Voilà. Moi, dans l'événementiel, je vous donne un exemple. Dans l'événementiel, tous les patrons savaient que je fumais des pétards. Tous, sans exception. J'ai même eu une lettre dans ma fiche de salaire qui disait attention, pour tout usage de stupéfiants, ce sera licenciement sur le champ. Moi, je suis allé au bureau, j'ai dit mais je fais comment moi ? Comment je fais pour travailler chez toi avec cette interdiction ? Il me dit ouais, mais si t'as un accident, je dis si j'ai un accident, j'irai en prison. Mais t'inquiète pas, je tiendrai. Parce que tu sais que si je ne suis pas chez toi pour travailler, je suis mort, je ne peux plus travailler parce que je suis obligé de consommer ce que vous appelez du stupéfiant. Et le gars, il m'a dit, mais il n'y a pas de problème. Fonce, Gérald. Je sais qui tu es. Travaille.
D'accord. Et là, Gérald, tu es sous stupéfiant là maintenant
ou pas ? Stupéfiant, bien sûr.
Non, mais alors, c'est dingue. Ça ne se voit pas du tout.
Après, je suis là à travailler.
D'accord.
Je viens bosser. Donc, ah ouais. Je ne vais pas m'allumer la gueule.
Ouais, non, mais ça se voit pas. Ça se voit pas
je vous dis pas que ce soir, je passerai pas dans un quartier pour aller me chercher une bonne petite beuh du quartier, quoi.
D'accord.
Surtout quand on voit THC et Tour de Haute-Castellane, quoi.
Ok.
Je veux pas faire de la pub, mais il y a quand même des personnes aujourd'hui. Enfin, je sais pas, quand on regarde aux États-Unis le nom d'une pharmacie, ça s'appelle un drugstore.
Ouais.
Ça s'appelle pas une pharmacie. C'est un vendeur de drogue.
D'accord. Alors, ça, en état, c'est contrôlé, on sait d'où ça vient, on sait où c'est produit, c'est pas vendu à des mineurs en dessous de 21 ans. Enfin, il y a tout. L'encadrement permet aussi de pouvoir contrôler certaines dérives et certaines choses qui sont plutôt négatives et qui donnent pas aussi de l'argent à toute cette économie qui crée beaucoup de délinquance, qui crée beaucoup de personnes qui sortent de l'école. Donc, ça aussi, c'est une réalité.
Alors, c'est une réalité, oui. Je conçois. Que moi, quand on dit 21 ans, bon, ok, mais c'est vraiment le plus tôt possible, hein, 21 ans. 25 ans, ce serait peut-être mieux, honnêtement. Nous ne sommes pas tous du même équilibre.
Mmh.
Je pense que l'interdire à 21 ans, ça marche très très bien. Le problème qu'il y a, c'est que l'interdiction nous empêche d'aller faire de la prévention. C'est-à-dire que.
Mais t'as raison,
c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dire à un jeune qui va nous dire mais moi je fume des pétards, c'est bon, ça me plaît. Comment on va faire pour aller lui dire mais gars, tu te fous ton cerveau en l'air. Tu vas te créer des déséquilibres. Des déséquilibres neurologiques, des déséquilibres. Parce que tu es peut-être une personne qui a un seuil. Tu fais peut-être partie des une personne sur 3000, 4000 qui peuvent avoir un problème de schizophrénie. Tu as peut-être un problème cardiaque. Si jamais tu as des palpitations, bah, peut-être qu'à 35 ans, après un effort sportif, tu vas fumer ton pétard, tu vas peut-être claquer comme ça d'une crise cardiaque parce que tu as une déficience. Donc, consommer du stupéfiant, il faut faire attention. Le cerveau n'est pas forcément habitué. Puis le déséquilibre que l'on a, moi, je vois, pour moi, il est bénéfique. Mais pour d'autres personnes, il y en a ce qu'on appelle un blanc, ce qu'on appelle qui font des malaises. Il ne faut pas consommer. Le problème aussi de qu'on ne peut pas en parler, c'est quand vous êtes un consommateur d'alcool, parce que vous êtes festif, récréatif, en discothèque, que vous consommez de l'alcool, vous êtes déjà rendu à votre demi-bouteille de whisky ou de champagne, comme vous voulez. Et puis que là, derrière, vous avez un ami qui dit « Viens, je vais fumer un joint », et vous allez avec lui. Bon, en général, ça se termine aux toilettes. Hein. Donc, alcool, cannabis, c'est pas compatible.
Ouais, non, mais
si vous regardez bien les coffee shops en Hollande, il n'y en a pas un seul qui vend de l'alcool.
C'est vrai. C'est
alors,
vrai.
Vive les vendeurs de jus de fruits. Qui vous présenteront un petit thé, une petite cigarette bientôt. J'espère qu'un jour ça arrivera en France. Parce que c'est l'interdiction qui fait la promotion. Il ne faut pas oublier.
C'est vrai que les jeunes sont attirés.
Donner un interdit
à un
Français,
tout ce qui est interdit.
Donner un interdit, ça devait devenir un jeu, une excitation. Pourquoi ? Parce que l'excitation, on n'en a plus. Les bars, ils ferment les uns après les autres. Les discothèques, vous avez les flics en permanence. Il est resté où la base du festif français ? Il devient quoi ? Ben vous savez ce qu'il fait le français aujourd'hui ? Ben il va à l'étranger et puis il devient un gros connard. Parce que quand il sort, il s'expose encore plus. Parce qu'il sait que là, il n'a rien à craindre.
Ok. Mais j'adore. Alors là, mais on pourrait en parler des heures. J'adore ta vision. En gros, si je récapitule ce que tu dis, toi, tu es pour un contrôle de la légalisation. Mais aussi pouvoir avoir le contrôle pour savoir à qui on le vend et à qui on ne le vend pas. Et d'un autre côté, tu serais plutôt sur la légalisation, sur le côté pharma, donc pour se soigner. Et d'ailleurs, tu es l'exemple concret par rapport à ça. Et moi, je voulais juste revenir sur la chose. Donc, tu es producteur aujourd'hui de chanvre. Tu es producteur aujourd'hui de chanvre. Donc, on va revenir à cette partie-là parce que tu m'as donné une magnifique branche. Là, j'ai une magnifique branche dans la main. Donc, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ce que tu produis, comment tu le produis, etc. Revenons là-dedans. Parce qu'à la base, donc, on revient, tu produis, tu consommais beaucoup, tu t'es dit, je vais produire pour ta propre conso. Et après, finalement, tu t'as dit, bah, écoute, pourquoi pas en faire plus et t'es monté petit à petit. Raconte-nous un petit peu cette histoire.
Au tout début, si je vais à la base, bien sûr que j'ai fait pousser du chanvre et en mode sinsemilla. Alors, sinsemilla, c'est du catalan, hein, ça veut dire sans semence. Tout simplement, c'est comme une fleur de coffee shop, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de graines à l'intérieur. Fumer une graine de chêne vie, fumer une graine de le fruit du cannabis, c'est pas bon, c'est de l'huile, c'est dégueulasse. Et il faut savoir qu'une plante qui est arrivée à la base, à terme de chêne vie, père des cannabinoïdes. C'est-à-dire qu'une fleur qui est Sinsemilla, lorsqu'elle est fécondée, elle va arrêter sa croissance de fleur et elle va fabriquer son fruit. C'est-à-dire que c'est une plante qui a différents stades de vie. À chaque fois qu'elle passe à un stade supérieur, elle arrête le stade d'avant. Donc, si la plante elle est fécondée, elle va arrêter son stade de production de fleurs et elle va passer à la fabrication, enfin, à la fabrication entre guillemets, elle va passer au fait de former les graines, de les arriver à maturité. Quand elle fait ça, elle arrête sa croissance de fleurs et elle passe au fruit. Et une fois que le fruit il est mûr, elle meurt. Un exemple, si vous êtes des producteurs, je ne vais pas citer de nom parce qu'on est tous des confrères. D'ailleurs, c'est le gros problème qu'on a en France avec le cannabis et le chanvre. C'est que tout le monde est en train de se tirer dans les pattes comme si on était des concurrents. Je suis désolé, moi, Pierre, Paul, Jacques, vous êtes mes confrères.
C'est
vous
n'êtes
pas des concurrents.
Bon esprit.
Arrêtons
ça.
De nous tirer dans les pattes. Quoi.
Très bon esprit.
On veut tous travailler, on veut tous faire des choses légales. Mais faisons-le intelligemment. Comment ça se fait que vous avez des groupes, des associations qui sont en train de tirer dans des pattes? Je n'ai pas donné de nom. Mais vous avez un gros groupe en France qui est allé chercher des adhérents dans un autre groupe. Vous voyez, je ne donne pas de nom. Peut-être à la fin si je craque. Ce groupe s'est retrouvé avec des gros, des très très gros industriels, donc capitalistes. Derrière, ils sont en train de casser le marché de la fleur en disant arrêtez de nous faire de la fleur Sinsemilla, arrêtez de nous faire ces fleurs qui sont à consonance stupéfiante. Moi, je trouve que c'est stupéfiant d'aller interdire de faire de la fleur pendant que ces gens-là, ils s'autorisent le droit de faire avec de l'industriel. Donc eux, ils ont toujours prôné l'interdiction du cannabis. Ils ont toujours prôné l'interdiction des cannabinoïdes. De toute façon, ils ne savaient même pas ce que c'était. Et puis, ils viennent nous casser l'herbe sous le pied à nous. Ils viennent nous couper les pieds. C'est pas normal. Moi, je pense que ces gens-là, ils filent un mauvais chanvre.
Ok, excellent, excellent. Et, bravo. Deuxième jeu de mots, là, c'est super. Donc, derrière ça, tu produis aujourd'hui. Donc, parle-nous un petit peu de ta production.
Alors, on fait une production uniquement de variétés de l'Union européenne.
D'accord.
C'est un point où, si je peux me permettre, je vais insister un petit peu. C'est-à-dire que si on regarde la réglementation européenne, surtout française, vis-à-vis des semences autorisées en Europe, il y a une liste qui est accordée en Europe. Bon, on sait que la liste française, elle est cassable de par les lois, parce que ce qui se fait à l'étranger, on peut le faire en France. Bon, c'est une chose. Et si vous prenez des variétés de l'Union européenne qui sont vendues dans les CBD shops, elle va être légale parce qu'elle est issue du tableau. Maintenant, si vous prenez une variété, je vais pas citer un pays qui est dans l'espace Schengen mais qui n'est pas européen. Vous voyez, je ne l'ai pas cité. Mine de rien, ces gens-là, ils font des variétés qui sont à moins de 1% de THC. Si elle fait moins de 1% de THC, elle n'est pas inscrite au tableau de l'Union européenne puisqu'on est limité aujourd'hui à 0,3. Donc, comment ça se fait que ces fleurs qui ressemblent à du cannabis, parce qu'elles sont des fleurs qui sont beaucoup plus compactes, comment ça se fait que ces fleurs arrivent sur le marché français pendant qu'elles ne sont pas inscrites au catalogue européen? Tout ce qui est interne à l'espace de Schengen, tout que ce soit de l'huile, du CBD, de la fleur, tous les produits doivent être uniquement faits à partir des graines de chanvre de l'Union européenne. Donc, les fleurs qui viennent de certains pays voisins, qui sont faits avec des hybrides, qui sont faits de croisements, ce n'est plus une variété de l'Union européenne.
Alors, comment tu l'expliques ça? Comment ça se fait que ça arrive sur le marché?
Mathias?
Oui.
La fleur que je t'ai donnée,
ouais.
Elle ressemble à du cannabis ou elle ressemble à du chanvre?
Elle ressemble à... C'est une bonne question, du chanvre, je dirais.
Du chanvre. Ouais. Pourquoi ça te permet de te dire ça? Parce qu'elle est beaucoup plus aérienne.
Oui, c'est ça.
Elle n'est pas compacte.
Oui.
Ouais, t'as remarqué quand même que celle-là, quand tu la pinces, elle a une bonne odeur.
Oui. C'est ce que j'essaie. Depuis tout à l'heure, je suis en train de la sentir.
Tu sais pourquoi celle-là, ouais, elle a une bonne odeur? Qu'elle ne soit pas le chimique?
Non.
Parce que ce sont les terpènes naturelles de la plante. Elle, d'accord, n'a été ni lavée,
eh oui,
ni avec du CBD qui a été rajouté,
oui,
ni du terpène rajouté. Et pourquoi nous, on la laisse en branche? C'est parce que ça vous diminue le coût de séparation de végétal. Une manucure, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est la manœuvre, surtout,
ouais,
en France.
Ouais.
Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'essayer de faire des fleurs en entier. Alors les gens sont un petit peu perdus avec, mais ils ne se rendent pas compte qu'avec une fleur comme ça, ils ont trois produits devant eux. Ils ont un produit, ils peuvent faire des crêpes, se prendre les grandes fleurs, on peut les mettre dans une pâte à crêpes, on peut se prendre les fleurs pour les mettre en combustion, mais vous pouvez aussi vous faire une infusion avec des matières grasses. Ça veut dire que vous avez une fleur d'environ 40 cm à 10 balles. Si moi je regarde ce qu'il y a dans un bureau de tabac, vous avez 2 grammes pour 19 balles. Là, en fin de compte, Mathias, je suis heureux de t'apprendre que je t'ai fait un cadeau de 80 euros. On vend 10 euros.
Magnifique, magnifique.
Bon. Mais tu vas voir, quand tu vas goûter ça ou que tu vas prendre ça et le mettre ça dans une petite coupelle sur ta table de nuit, juste pour dégager les odeurs, arrête les somnifères. Ah, j'ai pas le droit de te le dire. Oh mince, excusez-moi, j'avais pas envie de dire. Mais l'odeur extraordinaire, c'est un apaisant en fait.
D'accord.
Il y a plein de personnes qui utilisent l'huile essentielle, qui en mettent une petite goutte sur l'oreiller. Somnifère, c'est fini.
D'accord.
Ça vous détend.
Bah écoute, je vais essayer ça dès ce soir, ça. Dès ce soir, tu m'as vendu là,
le soir, hein. Le soir.
Oui.
Voilà, bien, fais ça ce soir. Parce que si c'est tellement. C'est subtil le CBD. Faut pas croire, il n'y a pas de défense, il n'y a rien. J'ai un petit point d'ailleurs sur cette défense.
Vas-y.
Il faut comprendre une chose. C'est que les variétés qui sont de l'Union européenne, il y a un ratio qui est dans la plante, un ratio de principe actif. C'est-à-dire qu'il y a donc les molécules psychotropes qui sont le THC8, THC9. Ça, c'est les variétés, c'est les cannabinoïdes qui sont psychotropes. Et vous en avez tout un autre paquet qui sont les cannabinoïdes non psychotropes, qui vont certes vous amener une détente, une relaxation, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui est intéressant dans le chanvre, même si le fait qu'il fasse 0,3, nous avons un taux de CBD qui fait que le CBD, si jamais on vient à le fumer, le CBD va contrecarrer l'effet du THC. Ça veut dire que du coup, ce n'est pas psychotrope. Si l'on prend, par exemple, une extraction qui est faite sur du chanvre européen, comme par exemple la Duica 88 que je t'ai dit, qui est une variété française pour information. Cette Duica 88, si on en fait une extraction, c'est-à-dire qu'on vient récupérer les principes actifs, donc on les compresse, on va donc séparer le végétal des principes actifs. Vous allez avoir un principe actif de THC qui va être supérieur à 0,3. On peut monter à 3, 4% suivant la qualité de l'extraction qui sera exercée. Mais derrière, si vous êtes à 3, 4 de THC, vous avez le même ratio en CBD. C'est-à-dire que vous terminez par des 40, 50 de CBD. Ben, malgré que vous soyez à 3 ou 6% de THC dedans, vous le consommez, eh ben, vous ne serez pas plus défoncé que si vous fumez uniquement la fleur. Parce que le ratio, la différence qu'il y a, le delta entre le THC et le CBD, fera que si vous restez sur le même ratio, vous n'aurez pas de défense. Ça, si vous voulez ce genre d'information, il faut chercher, hein, parce qu'il va falloir chercher sur plus de 12 000 renseignements, de recherche universitaire ou de médecin. Vous allez sur PubMed, qui s'appelle publication médicale, mais PubMed, P-U-D-M-E-D. Vous marquez votre pathologie, Alzheimer, allez, voyons voir, on va tous vieillir, donc il y a des chances qu'on oubliera pas mal de choses. Vous cherchez donc Alzheimer, et vous marquez cannabinoïde avec. Ben vous allez vous retrouver avec plein d'études. Vous mettez cancer, cannabinoïde, cancer de la vessie, de la prostate, un glaucome. Glaucome et cannabinoïde, quelle grande histoire. Il y a plein de personnes qui d'un seul coup se retrouvent à ne plus avoir de glaucome lorsqu'ils ont fumé leur premier joint de CBD à 60 ans, 70 ans. Tiens, mais j'ai plus de glaucome, qu'est-ce qui se passe? Ça vous enlève l'hypertension. Vous savez que vous avez un magasin, un médicament qui est vendu en Jamaïque qui s'appelle Canasol. C'est des gouttes que vous mettez dans les yeux. Vous n'en parlez pas à votre ophtalmo, il va vous foutre dehors, à votre médecin du glaucome. Il va vous engueuler, parce que surtout quand vous allez lui dire qu'en Jamaïque, il y a un médicament qui s'appelle Canasol. C'est des gouttes que vous mettez dans les yeux. THC, CBD. Vous annulez directement le glaucome. Il disparaît. Bon, je ne vous dis pas que c'est définitif. Il va falloir continuer votre consommation.
D'accord, je comprends. Ça se voit que tu es très militant dans ta façon de t'exprimer. Tu es très convaincu aussi dans la façon de communiquer sur ça. Et tant mieux, et c'est génial. Tu as fait beaucoup de manifestations justement pour...
Si tu veux, Mathias, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à 16 ans, quand j'ai rencontré le cannabis, ça a été pile poil l'année où j'ai perdu une sœur qui avait 38 ans.
Waouh.
Qui est sortie de 8 ans de cancer.
Waouh.
Ablation sien gauche, ablation sien droite, jusqu'à métastase de colonne vertébrale et au cerveau. Et puis c'est là qu'on m'apprend à 16 ans, ta sœur qui t'a élevé, c'était une de mes mamans, j'ai 4 sœurs, donc j'avais 5 mamans. Dominique, elle est décédée à 16 ans. C'est le moment où j'ai rencontré le cannabis. Et ben, je me suis procuré des livres. Vous avez Cannabis, médecine interdite. C'était écrit par... j'ai perdu le nom. Il y a quelques années, plus de 20 ans. J'avais 16 ans, donc il y a 32 ans, ça a été traduit en français. Et quand vous lisez ce livre, vous ne comprenez pas pourquoi le cannabis il est interdit.
Ouais. Eh ben, moi, justement, alors, comment tu l'expliques?
J'ai envie de faire un souhait, en fait. J'ai envie de faire un souhait à toutes les personnes. Excusez-moi, hein, j'ai envie de faire un souhait à toutes les personnes qui sont contre la légalisation du cannabis. C'est de se retrouver dans un fauteuil roulant avec une sclérose en plaques, une algie vasculaire de la face, un membre fantôme, un glaucome. Et on verra ce qu'ils en pensent du cannabis.
Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Alors après, on peut te dire il y a des médicaments, etc. Mais hormis ça, toi aujourd'hui, comment tu expliques ? On voit qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont légalisé d'un point de vue médical. Il y en a plus beaucoup qui l'ont légalisé d'un point de vue détente, on va dire, avec CBD, et beaucoup qui ont aussi légalisé sur le côté récréatif. Comment tu expliques, toi, que la France aujourd'hui soit ultra réticente à mettre ce produit sur le marché, de pouvoir le contrôler, de pouvoir, comme tu as dit précédemment, pouvoir communiquer et donc informer les plus jeunes sur pas mal de choses? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a un frein, selon toi?
Selon moi?
Question difficile. Et il y a beaucoup,
non,
de,
j'ai
beaucoup
énormément
choses.
De réponses à donner.
Ok.
Elles sont loin d'être politiquement correctes.
Eh ben écoute, vas-y, lance-toi.
Non, je peux pas.
Tu peux pas? D'accord. Ok. Est-ce que tu
disons
peux
que,
nous sous-entendre
que, ah, le sous-entendre. Donc, sous-entendre. On va comprendre ce que je veux dire. Je vais pas dire à qui profite le crime. Parce que moi, quand j'entends parler que ça nourrit soi-disant des terroristes parce que c'est vendu du hashish dans les quartiers, je suis pas d'accord. Parce que quand on voit les saisies qui sont faites dans les quartiers et qu'on regarde les épiceries qui sont à côté, qui parfois ferment parce qu'il n'y a plus personne qui vient acheter à manger, parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre dans la cité, je me demande si vraiment ça nourrit Al-Qaïda. Il faut arrêter de prendre pour des cons.
D'accord.
Si le cannabis, il était légal, moi je comprends pas l'État. Aujourd'hui, il y a les CBD shops qui sont en place. Pourquoi, au lieu d'interdire la fleur de CBD, en sachant que demain la légalisation du THC risque, non, pas bah, enfin nous arriver dessus, pour que nos gamins nous défoncent, se défoncent intelligemment, et non comme du brain drinking, comment on dit ça, buveur comme un alcoolo, quoi, un alcool rapide, facile. Mais les jeunes aujourd'hui, ils en sont à ça. Si on interdit tout ça, comment on fait pour expliquer à la personne qu'un pétard, ça peut suffire sur 2 heures, 3 heures? Comment ça se fait que le jeune, il est en train de se fumer 3 pétards à l'heure?
D'accord, je comprends. Mais alors, toi, tu sous-entends, mais sans rentrer dans le détail, tu considères quoi? C'est plutôt un
moi,
frein
des
politiques?
Je considère que les politiques feraient mieux de regarder comment se passe l'approvisionnement d'un CBD shop pour regarder demain comment on prépare la légalisation du THC.
D'accord.
Et lorsque l'on a des personnes qui sont en prison aujourd'hui pour trafic de stup, ou qu'on a des mecs qui sont en cité pour trafic de stup, eh ben ces mecs-là, on va les voir et on leur dit: tu veux une licence? Tu veux un coffee shop? Tu veux redonner à tes frères et tes cousins et à tes jeunes là qui retournent en cours? Maintenant, tu vas pouvoir payer tes ouvriers. Tu vas pouvoir leur garantir qu'ils auront un chômage si tu fermes. Ils vont pouvoir cotiser pour leur retraite. Ils vont pouvoir payer des impôts. Ils vont pouvoir rester nobles dans la société, rentrer dans la société.
Alors,
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la jeunesse se sente délinquant? Mais parce qu'ils sont sur un interdit. Ils sont sur une consommation de stup. On leur crache à la gueule. On est en train de dire: regarde, t'es une merde, tu fumes du stup. T'es un trou de cul, tu deviens un délinquant. Bah, le mec, une fois qu'il est devenu un délinquant, bah hop, oh, le scooter là, il y a le casque, oh, il y a les clés dessus. Bah, je me barre avec. Oh, dis donc, t'as vu la petite vieille, il retire du pognon. Tiens, il suffit de prendre son sac. Ah ouais?
D'accord, donc.
Il y a un pas qui est franchi, la barrière, elle est sautée. C'est l'ouverture à la délinquance.
Ok, je comprends. Donc, tu es en train de dire qu'on pourrait justement contrôler cette délinquance à partir du moment où on a la partie.
On
est légal et donc on nettoie toute cette partie-là. Et donc, c'est un pas qui serait enlevé sur la partie création de nouveaux délinquants, c'est ça?
Disons qu'un consommateur d'alcool, c'est pas un délinquant.
D'accord.
C'est un consommateur d'alcool, c'est un bon Français. Moi, je veux bien être un bon Hollandais. Hein. Alors, pour information, l'un des pays qui consomme le moins de cannabis, c'est les Hollandais.
C'est dingue.
Et autre c'est... chose, autre anecdote encore. Le Portugal,
ouais.
C'est le premier pays consommateur d'héroïne il y a 18 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour endiguer ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arrêter ça? Ils ont toléré toutes les drogues. Ils sont eux, maintenant, qui ont le moins grand nombre de consommateurs d'héroïne d'Europe, pendant qu'ils étaient le plus grand nombre. En moins de 20 ans, ils ont réussi à arrêter l'héroïne qui est un fléau. Donc, pourquoi on ne légalise pas les drogues? Ça rapporte à qui?
D'accord. Et donc, tu sous-entends que ça rapporte,
rien.
Ça rapporte aux États ou des choses comme ça, c'est ça?
Ça rapporte à des personnes qui ont certains intérêts, je suppose, oui.
Mais,
c'est pas impossible.
Mais tu vois, regarde...
Moi, je pense que si ces gens-là, ils prenaient leur courage un petit peu plus efficacement, ils pourraient se dire: pourquoi je ne crée pas une société Et puis le travail que je faisais illégalement hier, je vais le faire légalement demain. Mais du coup, il devient quelqu'un qui est responsable de la société.
Non, mais t'as raison, mais en plus...
Parce que moi, aujourd'hui, les politiciens, ils sont irresponsables de la société. Moi, quand je vois des jeunes, mes enfants, j'ai ma fille qui consomme des pétards. Elle est venue me voir un jour, elle me dit, papa, il m'a proposé de la cocaïne.
Waouh.
Je dis, bah écoute, la prochaine fois, je viendrai avec toi, puis je mettrai ma main dans la gueule.
Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr, tu as raison.
Tu as 16 ans.
Ok, mais c'est clair, c'est clair.
Donc, il faut sortir le cannabis de la rue. Si on laisse le cannabis dans la rue, et c'est la porte ouverte. Je ne dis pas que c'est la porte ouverte aux autres drogues. Personnellement, ça fait 36 ans que je consomme du cannabis. Je sais ce que c'est que de l'héroïne, je sais ce que c'est que de la cocaïne. Je sais ce que c'est que du LSD, de la psilocybine, du MDMA. Quand vous avez une algie vasculaire de la face, je vous garantis que vous connaissez toutes les drogues qui existent.
Oui, tu as tout essayé.
J'ai tout essayé. Et pour information, l'héroïne, je l'ai arrêté avec la cocaïne, je l'ai arrêté grâce au pétard.
D'accord.
La méthadone, je sais pas ce que
donc
c'est.
Donc, t'es sorti de ça grâce,
oui,
au, grâce au cannabis.
De drogue dure, oui. Ouais. Oui, grâce au cannabis. Bien
ok, ok, mais c'est bien.
Mais je vais même vous dire que je connais un consommateur de méthadone depuis 15 ans. On s'est rencontrés par pur hasard, comme ça. Un mec qui était sympa, un petit peu psychotique. Salut Pierre. Pierre, il m'a parlé de ses soucis. Et puis, je lui ai dit, mais t'as déjà lu des études sur PubMed concernant la décroche de l'héroïne, des opiacés, de la méthadone. Il dit, bah non, je dis, bah fouille un petit peu, peut-être que le CBD pourrait t'aider, quoi. Il a mis 3 semaines.
Dingue.
3 semaines à arrêter la méthadone après 15 ans de consommation de méthadone.
C'est dingue.
Alors, vous voulez vraiment que les laboratoires, ils veulent que le cannabis soit légal?
D'accord.
Combien ça rapporte à un mec qui consomme de la méthadone tous les jours?
Beaucoup.
Combien ça rapporte à un mec qui fait de la chimiothérapie tous les jours?
Beaucoup aussi.
Vous voulez arrêter 120 000 euros du cancer à un laboratoire?
Ok.
Si on regarde certaines choses sur Internet, toujours, hein, parce que Internet c'est libre. Donc il paraîtrait que vous avez Rick Simpson Wild, RSO, que vous pouvez trouver en sous-titré français. C'est quelque chose qui dure 58 minutes. Le gars il vous explique en fait qu'il a aidé beaucoup de personnes à soigner des pathologies. Et en fin de compte, ben, on apprend quand même qu'avec 3 à 5 graines de cannabis, en faisant des extraits, il paraîtrait qu'on pourrait arrêter des pathologies très importantes. Donc, quand vous avez 5 graines qu'on trouve dans des magasins spécialisés, que vous allez payer entre 25 et 50 euros, si jamais vous prenez quelque chose de très nouveau ou très fort, peu importe, ou très, très industriel, très à haut rendement, et puis qu'avec 50 euros et puis quelques personnes qui vous expliquent comment qu'on fait tel ou tel produit, et bah, vous endiguez complètement, vous arrêtez votre maladie, votre pathologie pour 50 balles.
D'accord.
Alors pourquoi les pharmaciens ou pourquoi les laboratoires et pourquoi on a arrêté l'herboristerie? Je ne comprends pas. Moi, il y a des choses, je ne comprends pas. C'est le plus vieux métier au monde, c'est l'herboristerie. Je ne parle pas de la prostitution, j'avais bien dit l'herboristerie. Pourquoi il n'y a plus de diplôme d'herboriste aujourd'hui? Ah, par contre, en fait, les pays limitrophes, ils sont tous sur la réformiste. Hein. Nous, en France, plus rien. Pourquoi? Je ne comprends pas. Moi, il y a des choses.
Alors,
moi, je trouve effarant que l'on fasse de l'argent sur la santé d'un patient. C'est lamentable. Lamentable. La santé, ça n'a pas de prix.
Et tu as raison sur ça. Tu as raison. Et donc, comment changer les choses? Allez, ce sera la dernière question. Je sais que tu ne voulais pas dire pour quelle est ta vision sur le tas, pourquoi il y a ça, mais comment changer les choses? Est-ce que ça passe par les politiques?
Il faut mettre des personnes qui dirigent toutes ces entreprises avec des pathologies importantes. Il faut arrêter de prendre des personnes qui sont saines. Mettez-moi une personne qui a sclérose en plaques à diriger GW Pharma. On verra si le prix du Sativex y descendra.
Mais je suis sûr qu'il y en a qui sont malades, mais qui utilisent des médicaments. Ils n'utilisent pas forcément du cannabis.
Vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que un CBD cristal que l'on trouve dans le commerce aujourd'hui, là où le prix s'est complètement cassé la gueule. Il y a 10 ans, ça valait 1000 balles. En pharmacie, 1000 balles qui étaient vendues 1 gramme de CBD cristal. Aujourd'hui, vous trouvez des kilos pour moins cher que le prix du gramme d'il y a 20 ans. D'accord? Vous pouvez m'expliquer pourquoi ce CBD cristal qui est dans les vapes, qui est de très très bonne qualité, pourquoi est-ce qu'on arrive à le choper à moins de 10 euros le gramme, que lorsqu'on le retrouve ajouté dans un produit pour faire un médicament, on trouve du Sativex à 360 euros. Mmh. Pendant qu'il y a 2500 mg de cannabinoïdes dans le Sativex à 360 euros, pendant que l'on peut trouver du CBD cristal grossiste pour fabriquer de la vape, du massage, tout ça, à moins de 50 balles. pour être gentil. Et puis faire une extraction de THC ou une extraction de CBD ou une extraction de CBG, c'est toujours la même extraction. C'est le même procédé. Donc pourquoi est-ce que l'on se retrouve avec 2500 mg dans du Sativex vendu à 360 euros? Pourquoi? Ah, parce qu'il y a des traces laboratoires. Ah, ils ont mis une machine à CO2 super critique qui coûte 500 000 euros. J'ai dit, mais l'herboriste avant, il y a 60 ans, quand la plante elle faisait partie de la pharmacopée française, il n'y avait pas de normes ISO. Mmh. Vous alliez dans une pharmacie, il existait des paquets de 5 cigarettes contre l'asthme.
C'est sûr, c'est sûr. Écoute,
alors,
c'est,
pourquoi c'est, à qui ça profite tout
c'est,
ça
c'est, écoute, c'est une bonne question à se poser. Je devais te.
Mais il y a des choses, il va pas falloir les mettre, hein, parce que sinon je vais prendre une batte de baseball dans la gueule.
Hein. Non, mais non, t'inquiète pas. Écoute, je te donne le mot de la fin, puisque là on a parlé plein de choses. Qu'est-ce que tu veux dire à la fin? Quel est ton message? Quel serait le message que tu veux transmettre au plus grand nombre? Potentiellement, je te guide un peu sur des producteurs, parce que toi tu es producteur de CBD, je le rappelle. Après aussi sur les consommateurs et sur les distributeurs, puisque là on est au salon du CBD, donc on est en plein cœur de ce monde-là. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces trois personnes-là? Alors, trois profils.
Alors, dans quel sens? Je commence par le plus important ou le moins important? Je vais
Allez.
Commencer par le plus important.
Vas-y.
Et que tout le monde oublie. Pour moi, c'est l'agriculteur.
Le producteur.
Parce que si vous reniez le producteur, il n'y a rien à vendre. Il n'y a
T'as
pas
raison.
De produit. Donc, respectez-le, le producteur. Parce que si c'est pour avoir un mec qui vient et qui dit « Ah, bah moi, ton gramme, là, je voudrais te l'acheter à 30 centimes. » Je suis d'accord. Pourquoi pas, là je viens de baisser ma culotte, ok, pourquoi pas. Avant que tu me lâches le trou du cul, tu vas me dire combien tu le vends dans ton CBD shop? Parce que quand je vois que tu fais un x5, x10 sur le prix que tu me demandes, je voudrais bien savoir qui c'est qui se fait enculer en plus de l'agriculteur. Ah, c'est le consommateur! Ah mais oui, en fait, j'ai oublié, mais qu'est-ce que je suis bête. J'ai oublié que nous sommes tous sur ce marché pour quelqu'un qui à la finale s'appelle un consommateur. Et le consommateur, lui, il va pas se rebeller. Et il le sait pas, hein, que l'agriculteur, on va lui tordre les pattes pour lui dire « Hey, descends ton prix, parce que si tu descends pas ton prix, je vais aller voir le voisin. » Je dis « Mais vas-y, va le voir mon voisin, vous l'avez déjà saigné. Moi, je viens d'accrocher une corde. Donc, va produire maintenant.
D'accord,
va
donc,
passer 6 mois dans ton champ. Donc, va faire le curing, va faire la récolte, va t'occuper de tes plantes. Et tu veux quoi? Tu veux que sur le business que tu gagnes, toi, je prenne que 1/20?
D'accord, donc le message, il est là. Il est acheter au bon prix au producteur. Acheter local, je suppose, quand tu dis ça, c'est peut-être acheter.
Je pense qu'avec ce qu'on vient de prendre, avec 2 ans de Covid dans la gueule, si on n'a pas compris qu'il faut localiser,
t'as raison.
On n'a rien compris.
T'as raison.
Hein, c'est comme si, allez, je vous fais une parenthèse avec l'Ukraine, c'est comme d'aller dire à les Ukrainiens, ben, rentrez, venez chez nous. Et puis, on va regarder les mecs qui viennent des Comores, on va regarder le mec qui vient de Libye, de Syrie, d'Afghanistan. Et puis, on va dire, hop, t'as tes papiers, toi, à l'entrée, là? Hop, t'as des sandales, là. Hop, des baskets, ici, dehors. Mais on est où, là? C'est qui, ce monde, là? C'est qui, ces humains, là? J'ai honte. J'ai honte de voir des politiciens. J'ai honte de voir ces gens-là qui sont tous en train de se serrer la paluche. C'est comme un avocat et un juge qui mangent à la même table. Et puis, lorsqu'ils vont être au tribunal devant les appeler, ils vont se déchirer la gueule. Ils mangent tous à la même table. C'est pas normal. Vous êtes humain, vous êtes des machines. Il ouvre votre cœur. Je comprends pas, moi. Il y a des mecs qui voient un mec par terre et lui file un coup de latte dans la gueule. Pourquoi il n'aide pas à se relever? C'est lamentable.
C'est très inspirant ce que tu viens de dire. C'est une belle philosophie.
Je rencontre des jeunes, ils ont 20 ans, 21 ans dans la rue. Moi, quand je me promène dans Amiens, dans Lille, parce que maintenant je suis dans le Nord, et que je vois un mec qui est en train de taper la manche, je lui file pas une pièce. Je lui ramène un castal. Je lui ramène une bouteille de lait. Je lui ramène son petit déjeuner un matin. Je lui file pas une pièce.
Bravo, bravo. Donc, qu'est-ce que tu dirais maintenant aux consommateurs?
Consommateurs, soyez pas naïfs. Lorsque vous prenez une plante, une fleur, et puis que vous la sentez, demandez-vous ce que vous avez dedans. Prenez une loupe. Regardez la gueule des PSG, des poils sécréteurs glanduleux. Non, c'est de l'humour, hein. Je me fous totalement du foot. Regardez les trichomes, comment ils sont pleins. Regardez leur couleur. Regardez si votre plante elle est verte ou si elle est jaune ou si elle est dorée. Regardez comment elle croustille. Et lorsque vous la pincez, elle sent plus fort avant ou après l'avoir pincée.
D'accord.
Une plante qui est pincée, qui sent plus fort après, elle n'a pas été modifiée. Et la plante qui a la même odeur avant pressage ou après pressage, elle est trafiquée.
D'accord.
Elle est interpellisée.
En plus, je le vois, tu tapes sur la table, t'es convaincu.
Du produit pur, du produit naturel.
Eh oui.
Si le client il veut acheter, si le client il veut se prétendre être bobo et puis acheter quelque chose qui est joli, ben va t'acheter une Ferrari, mais n'oublie pas que t'as un moteur de chevaux dedans.
L'image est bonne. Donc tu dirais aux consommateurs, renseignez-vous, regardez d'où vient le produit.
C'est une super bagnole.
Regardez, achetez local. Ben regarde, si on achète en France, c'est aussi une raison d'avoir de savoir que c'est un bon produit. Les produits qui viennent par exemple de chez toi, c'est des produits qui sont faits avec l'amour. Avec le contrôle et tu produis la qualité.
Chez nous, quand on prend une plante qui est Sinsemilla, c'est une plante qui est dioïque. C'est-à-dire qu'il est possible d'empêcher la fécondation de la plante. Parce que une plante dioïque, c'est un pied mâle, un pied femelle. Mm. Vous enlevez le pied mâle, la fleur sera Sinsemilla. Elle va être plus grosse, plus forte, plus odorante et plus chargée en cannabinoïdes. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, sauf quand elle a été fécondée. Donc c'est du dioïque. Si maintenant vous allez dans des magasins et puis que la personne elle vous dit moi j'ai mes variétés, par exemple la DGCCRF. Mais vous faites quoi la DGCCRF? C'est quoi votre job? Vous voulez fermer les CBD shops? Il y a des moments, au lieu d'aller faire chier les CBD shops, vous feriez mieux d'aller faire chier les mecs qui fournissent les CBD shops. Et puis de regarder les certificats de semences. Parce que lorsque vous avez marqué Futura 75 dessus, c'est une monoïque. Vous m'expliquez comment vous faites de la Sinsemilla avec un pied qui sur la même plante a du pollen et des calices femelles. C'est-à-dire que la pollinisation, vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous avez le même sexe, c'est-à-dire que le pied, il est androgyne, il est hermaphrodite. Donc, comment voulez-vous faire une fleur Sinsemilla? Donc, moi, je suis à la DGCRF, je regarderai un petit peu toutes les fleurs qu'il y a dans les CBD shops, et puis je regarderai l'enregistrement, et puis je mettrai les moyens à aller regarder si l'ADN de la plante qui est en vente dans le magasin, si ça correspond bien au certificat de semence que j'ai reçu. Et au lieu d'aller faire chier des mecs contre des CBD shops qui tiennent un job pour pouvoir nourrir leurs gamins, payer leurs impôts, créer un emploi, presque 2000 boutiques on a en France. Ça veut dire que vous voulez casser 5000 jobs, 5000 familles. Mais non, c'est le mec qui fournit les plantes qu'il faut aller voir. Il faut faire des tests ADN, faites votre job. Nous, on fait le nôtre. Et puis quand vous voulez demander à des professionnels en France pour le chanvre, à savoir ce qui est légal ou pas, n'allez pas voir des gros capitalistes. Venez voir nous, les petits agriculteurs.
Non, mais t'as raison sur ça.
C'est que vous allez aller voir quelqu'un qui va vous cracher à la figure sur nous. Mais c'est pas possible. Ils s'octroient le boulot derrière. Tenez, allez, je vous la fais. Univec, qui a tout le monde avec eux, les gros français qui sont à l'Univec, qui sont donc contre la fleur. Comment ça se fait que le président, je crois, je vais pas nommer son nom. Choura, Monsieur Choura, je sais plus. Qui mine de rien, il n'est pas venu hier à Marseille avec le truc normal 19. Mais il vient faire quoi pour la légalisation du cannabis à Marseille pendant qu'il est en train de dire à tout le monde qu'il faut pas faire de fleurs en France? C'est facile quand on a une entreprise à l'étranger et puis qu'on se sert d'un novel food étranger. Mais tu l'as ton nouvel food en France? Et comment ça se fait que tu interdis de faire des choses et toi tu te l'octroies? Pourquoi tu nous pisses dessus sans même nous faire croire qu'il pleut?
D'accord, donc en gros tu dis achetez aux petits producteurs.
Bien sûr.
Renseignez-vous, donc là on était sur le consommateur, renseignez-vous sur ce que vous consommez.
Bien sûr.
Marche aussi bien dans le marché du cannabis légal, mais ça marche aussi bien de partout, hein, que ce soit dans le producteur de lait, producteur de fromage, enfin essayons de marcher en circuit court. Et marcher et consommer français. Et la dernière chose, qu'est-ce que tu dirais donc aux boutiques?
Aux boutiques, allez voir vos agriculteurs qui sont à côté de chez vous.
Voilà, circuit court.
Vous embêtez pas. Et puis si vous avez des problèmes avec le tarif, c'est peut-être qu'il y a un problème avec le tarif de ce que vous avez acheté en fait.
Sur la qualité.
Vous savez, quand on veut acheter un kilo de farine, on choisit. Mm. Quand on veut acheter de chanvre, on choisit. Mm. Si vous voulez acheter une Ferrari avec un moteur de chevaux, c'est vous que ça regarde. Mmh. Moi, je préfère une bonne dodoche avec un bon moteur de chevaux.
T'as raison. Écoute, on pourrait t'écouter pendant des heures.
Je suis chiant à force.
Comment on peut te
Comment
on peut te trouver? Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi?
Non.
Est-ce que tu es sur les réseaux, par réseau?
Non. Vivez caché, vivez heureux.
D'accord.
Et déjà, j'estime qu'en donnant mon nom et en ayant ouvert toute ma grande gueule comme j'aime le faire, Parce que bah, y a des choses qui sont à dire. J'en ai marre des tabous.
Alors imagine, j'ai quelqu'un qui veut monter un projet et qui a envie de trouver un producteur comme toi. Comment on peut te trouver ?
C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand vous avez des pieds qui poussent en monoplan dans un champ, et puis vous avez des petits jeunes qui ne sont pas informés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont devant les yeux, et puis qui viennent vous piquer la moitié de votre récolte.
Ouais. T'as pas envie.
Vous vous dites, ouais, c'est des plantes. Oui, mais le problème, c'est que c'était peut-être ce qui me permettait de payer mes impôts. Voilà. Que bah, du coup, je n'aurais peut-être pas à payer puisque j'aurais pas de production.
Bon, d'accord. Donc, en fait, vivons heureux, vivons cachés. T'as voulu partager ta vision aujourd'hui et je t'en remercie. C'était plein de convictions.
Vous savez, je pense qu'il y a un gros problème avec le cannabis. C'est qu'on ne devrait même pas être là à en parler. On ne devrait même pas faire du business avec. Vous devriez tous être comme en Inde, il y a 60 ans, avec des haies qui entourent vos maisons faites de cannabis. Et vous pourriez soigner tous vos maux. Vous pourriez soulager tous vos maux avec... C'était comme ça en Inde avant. Les haies des maisons, c'était du cannabis. Et il y avait beaucoup de cannabis qui poussait dans les familles en France. Énormément. Tout le monde avait du cannabis à la maison. Comme certains aujourd'hui ont des pieds de pavot.
Mais tu as beaucoup de pays qui ont autorisé la production avec quelques pieds
Regardez la Thaïlande. C'est pas vraiment sur les industriels qu'ils vont. Hein. Mmh. Ils vont sur les petits producteurs.
Tout à fait.
C'est génial.
Ouais, tout à fait.
C'est génial. Ils sont en train de redistribuer l'économie. Mais continuons de faire du GW Pharma ou continuons de faire les grands américains. Regardons-les venir fournir légalement et gratuitement l'essai thérapeutique français. Regarde, ils ont quoi en contrepartie ? Ils ont un contrat pour 5 ans ?
Là, j'ai remis une pièce là dans la machine. Ah, t'es reparti. En tout cas, je te dis, merci pour ce partage, merci pour ce moment, merci pour ce message plein de conviction. Mais t'es pas chiant, au contraire, c'était un pur moment. Merci d'avoir communiqué sur Parlons Cana et très heureux d'avoir passé ce moment avec toi. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.